au moment où nous parlons, à la mi-février 2019, avec une actualité préoccupante autour du Brexit. Je pense beaucoup à la reine Elisabeth II, car elle règne depuis 67 ans, mais je pense qu'elle n'a jamais connu, malgré toutes les crises politiques, diplomatiques, militaires, familiales, personnelles, tout ce qu'on voudra, qu'elle n'a jamais connu une situation aussi invraisemblable, car elle est la souveraine du Royaume-Uni. Elle aime aussi bien l'Écosse que l'Irlande, que le pays de Galles, que l'Angleterre. Et donc on est dans une situation terrible. Je pense que cette femme, qui connaît tout sur tout le monde, n'en parle que très discrètement à son Premier ministre, éventuellement à son mari, se trouve donc dans une situation sans précédent. Voilà. Et de penser qu'elle est montée sur le trône en 1952, qu'elle est devenue une reine de l'image en 1953 en faisant téléviser son couronnement et son sacre, eh bien, elle l'est toujours, et c'est quelqu'un qui a su accompagner, je dirais, la tradition de la modernité. Elle a compris, par exemple, l'évolution des mœurs dans les années 60 avec les Beatles, la révolution du collant, de la mini-jupe, et elle les a redécorés, enfin ceux qui y restent encore. Elle a beaucoup d'humour, c'est une femme, d'abord, qui travaille beaucoup. Elle en est actuellement à son 13e Premier ministre, elle en a eu un à deux reprises. Et je voudrais qu'on se souvienne que le souverain britannique a trois prérogatives. Ce ne sont pas des privilèges, des prérogatives constitutionnelles dans ce pays de constitution orale, d'être informé, de consulter, de mettre en garde. Autrement dit, on dit, en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, le gouvernement de Sa Majesté, oui, car elle connaît tous les dossiers, elle va proposer une solution, un choix, mais c'est le gouvernement qui décide. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, elle est constamment au courant de tout ce qui se passe, et cela notamment depuis 1942, quand son père, l'héroïque roi qui bégayait, n'est-ce pas, on se souvient du discours d'un roi, George VI, devant la situation catastrophique de la guerre, l'a mise au courant des secrets d'État qui sont toujours transmis par jour dans des boîtes en cuir rouge, au monogramme du souverain, plus aujourd'hui les moyens évidemment technologiques les plus cryptés, pour savoir où on en est, ce qui se passe dans le monde, les services secrets, les services diplomatiques, l'économie, la situation militaire, de façon à prendre des décisions en étant bien informé.
Jean Descartes, Elisabeth II, lorsqu'elle est montée sur le trône, qu'elle a pris cette fonction, est-ce qu'elle imaginait déjà, dans un monde qui était un monde d'hommes surtout, est-ce qu'elle imaginait pouvoir tenir devant des situations aussi difficiles, vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, face à la fois l'adversité et face à l'horreur?
Mais écoutez, c'est une femme qui, le jour de ses 21 ans, a fait un discours à la radio. Elle était donc princesse héritière, et elle a dit que ma vie soit longue ou courte, je serai jusqu'au bout au service de la nation. Donc c'est chez elle une religion, et c'est pour ça qu'elle n'abdiquerait pas, sauf raison de santé ou cas de force majeure que j'ignore. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle est très, très consciencieuse. Et tant qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui lui est proposé, que ce soit un Premier ministre conservateur ou travailliste, à la limite, ça n'a pas d'importance. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est un bon choix? Et je constate que, au moment où nous parlons, vous et moi, je me souviens de ce qu'elle a dit le 21 juin 2016. Elle a simplement dit, le jour où on a connu le résultat du Brexit, ça fait faire 2 ans et demi, « Je suis toujours là ». Ce qu'on peut interpréter en disant « J'aimerais bien que ça reste comme ça », voilà, sans rien dire d'autre.
Est-ce qu'elle a préparé l'avenir? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la reine est à la fois une institution aussi et le garant du Royaume-Uni. Est-ce qu'elle a préparé ses héritiers à une suite qui sera du même ordre?
Bien, le prince Charles, qui bat les records de patience, bien sûr, parce qu'il vient d'avoir 70 ans en étant prince de Galles, est prêt. Alors, il faut remarquer que s'il se permet des saillies, des remarques, des commentaires, de donner des leçons au gouvernement, c'est parce qu'en tant que prince de Galles, il le peut. Devenu roi, il ne le pourrait pas. On dit souvent que c'est une faiblesse. Non, c'est une force de l'État britannique. d'être au-dessus des partis, au-dessus des factions, etc. Je pense que la reine est prête à tout, ses successeurs aussi. Même William a été préparé à ses fonctions. C'est un état d'esprit. Et ça me rappelle toujours ce que le prince de Galles du temps de la reine Victoria, donc vers 1898, disait, parce que la reine Victoria persistait à rester en vie, Elisabeth II, qui son arrière petite-fille, a battu les records, et on disait au futur Édouard VII, mais enfin, comment faites-vous ? Il dit, mais je travaille, l'avenir est tout à fait normal, etc. Et il vient à Paris, et il adorait les cabarets de Montmartre. Il va chez Rodolphe Salis, au Chat Noir, alors la police est affolée, et on va voir Rodolphe Salis, qui avait l'habitude d'insulter ses clients. On lui dit, alors ce soir, de la tenue, doucement, c'est le futur roi d'Angleterre, comme on dit à l'époque. Alors contentez-vous de quelque chose d'aimable. Et il a accueilli en disant, alors monseigneur, cette maman toujours en bonne santé.
On peut dire qu'il y aura eu un avant et un après Elisabeth.
Oui, car Elisabeth II est dans le paysage mondial depuis 63 ans, au moment où nous parlons. Donc elle a tout connu. Elle a connu la guerre en tant que princesse héritière, ambulancière, soumise aux restrictions, un œuf par semaine le dimanche, les bains pris avec très peu d'eau et presque pas chaude, hein. Bon, une abnégation fantastique, ne jamais se plaindre. Et ensuite, elle connaît l'héroïsme de la monarchie après la guerre, victorieuse mais exsangue économiquement, avec une situation catastrophique. Churchill battu aux élections, bien. Elle le retrouve lorsqu'elle revient du Kenya après la mort de George VI, tuée certainement par l'effort de guerre. Et rappelons-nous qu'elle n'était pas destinée à régner. C'est parce que son oncle Édouard VIII a abdiqué qu'elle est venue sur le trône. Donc elle a connu l'après-guerre économique difficile. Elle a connu la décolonisation, la guerre froide, les crises familiales, sa sœur qu'elle adorait. Elle n'est pour rien dans ce qui s'est passé avec sa sœur, mais ça posait un problème politique. Les divorces des enfants, et elle tient, et avec l'homme qui, au moment où nous parlons, est son rempart, son ballon d'oxygène, le prince Philippe, qui va avoir 97 ans, qu'elle a rencontré quand elle avait l'âge de 13 ans, et qui a été l'homme de sa vie.
Merci Jean Descartes. Elisabeth II, la reine, s'est publiée aux éditions Perrin. Jean Descartes, je vais vous poser une autre question. Quel est le livre dans votre jeunesse, adolescence, ou à un moment donné, qui a été le livre important de votre vie, que vous relisez, que vous gardez ?
Le Tour du monde en 80 jours. Car je trouve que Jules Verne n'est pas tellement le père de la science-fiction, non, mais du roman de la science. C'est lui qui m'a donné envie de voyager, de connaître des pays, de m'intéresser aux chemins de fer, comme tout le monde le sait, aux bateaux, aux avions, aux trains. Je trouve que c'est fascinant. Et voilà. Et en allant un peu plus loin, Michel Strogoff a donné l'idée au tsar Alexandre III de prévoir le chemin de fer transsibérien, parce qu'à l'époque, il fallait un an pour qu'un ordre du tsar arrive à l'autre bout de l'Empire.
Jules Verne, vous l'avez découvert à quel âge ?
Oh, j'avais 13 ans. Dans la collection Hetzel, qu'un de mes oncles avait, et j'étais fasciné, y compris par les illustrations. Et je trouve que Jules Verne est d'une actualité extraordinaire, parce que c'est très romanesque, et on apprend beaucoup de choses.
Merci Jean Descartes.